l'instant addicto. Bonjour à toutes et à tous, l'instant addicto. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Chloé Bichon, infirmière à Zalée. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Donc déjà savoir dans le cadre du mois sans tabac, je suis très heureuse de vous recevoir et de savoir déjà un peu d'où vous venez et quand on dit infirmière à Zalée, de quoi il s'agit précisément.
Je suis diplômée depuis 2008, donc après mon diplôme j'ai travaillé en psychiatrie sur Poitiers pendant 7 ans et puis ensuite j'ai eu l'opportunité de découvrir l'association à Zalée juste à côté de chez moi et j'ai été très emballée par ce projet-là. Et donc ça fait maintenant depuis 2015 que je suis sur 3 cabinets, 2 maisons de santé et un pôle santé, Lussac, Verrières et puis Civaux, donc à temps plein, avec des missions multiples.
Et quelles sont-elles ces missions en tant qu'infirmière à Zalée ?
Déjà, le principe de la mission d'Azalée, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Donc on travaille en collaboration avec des médecins généralistes. C'est vraiment un trinôme. Donc il y a le médecin, l'infirmière et le patient qui est bien au milieu. Donc le médecin généraliste signe une convention avec Azalée et ensuite, il nous oriente leur propre patient. Donc pour des annonces de diagnostic et ensuite ils nous orientent leur propre patientèle que nous on reprend, on a du temps à leur consacrer à ces patients-là.
Oui, tant que n'a pas forcément, on le sait très bien au niveau des médecins généralistes,
voilà, ça,
on en manque beaucoup dans le sud Vienne.
C'est ça, tout à fait, exactement.
Donc on prend l'exemple d'un patient qui va venir vous voir, Chloé Bichon, en tant qu'infirmière à Zalée.
Les personnes en fait qui abordent leur désir de sevrage auprès du médecin, c'est très 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 souvent comme ça que ça se déroule. Ensuite, je pense que ça allume une petite ampoule auprès du médecin, donc qui dans la foulée nous oriente le patient. Donc généralement, il donne ma carte de visite et c'est le patient qui fait la démarche de me contacter.
Une démarche volontaire qui est nécessaire pour la motivation.
Exactement, tout à fait. C'est pas l'inverse qui se produit. C'est bien le patient qui me contacte. Et ensuite, moi, je donne un rendez-vous. J'essaye de le faire très rapidement parce qu'on connaît la durée de vie de la motivation qui est pas spécialement longue quand il y a rien derrière. Donc ensuite, je rencontre le patient et puis ensuite, j'essaye d'évaluer un peu ses besoins et ses demandes pour ensuite pour l'aider au mieux dans son sevrage tabagique.
Est-ce que vous avez, je me posais la question, est-ce que vous avez des personnes qui sont on va dire entre gros guillemets petits tabagiques, c'est-à-dire des personnes qui vont fumer moins de 10 cigarettes par jour, des gros tabagiques comme on dit, entre un paquet, deux paquets par jour, voire un peu en termes de consommation que...
C'est principalement des gros fumeurs. J'ai rarement des petits fumeurs, voire des fumeurs à l'occasion, c'est vraiment très rare, on est plus sur un paquet par jour, deux paquets par jour, voire trois paquets par jour, avec des gens qui fument la nuit, qui se réveillent, qui se réveillent pour fumer, etc. Donc
on est... Grosse addiction. En niveau de, pour genrer, au niveau des hommes et des femmes, en voyant les chiffres, je l'avais dit en première émission d'introduction de ce mois sans tabac, ça augmente encore au niveau des femmes, au niveau du tabac. On se rend compte qu'on a encore beaucoup, beaucoup, 12 millions de fumeurs en France, c'est encore beaucoup. Et on se rend compte, voilà, c'est vrai que ça touche aussi beaucoup la population précaire en tabac en France.
J'ai autant d'hommes que de femmes, je pense que je... D'accord. Pas vous dire j'ai plus d'hommes ou plus de femmes, non, c'est je pense qu'il y a une équivalence.
Par rapport à cette population, quand elle vient vous voir, ça elle est en précarité, on sait que le coût, hein, j'aborde un tout petit peu les modalités, au niveau du coût, on sait que c'est compliqué, même si on sait que des fois dans le soin, c'est bien de participer aussi, hein, ça dépend des addictions. Dans ce cas-là, est-ce que la personne va payer ou non quand elle vous rencontre, Chloé Bichon ?
Alors, ce qui est très important de savoir, c'est que les consultations à Zalée sont gratuites. Donc, c'est une motivation supplémentaire pour le patient quand il aborde son désir de sevrage auprès de son médecin, le fait que le médecin annonce la gratuité de nos consultations, évidemment que le patient va plus facilement nous contacter. Donc il n'y a pas cette notion d'argent.
Au niveau du coût, oui.
Il n'y a pas, j'ai pas noté auprès de ma patientèle, il n'y a pas plus de patients précaires qu'aisés ou on est plus dans une classe moyenne, entre guillemets, voilà.
Est-ce que ce sont des personnes, des patients qui ont fait déjà moult sevrage en amont et qui se disent là, il faut vraiment que je sois aidé, je n'en peux plus, j'arrive pas tout seul. Est-ce que vous avez un peu ce profil-là ?
Oui, j'ai beaucoup de personnes qui me disent j'ai tout essayé.
Dans le tout, ils mettent quoi, à votre avis ?
Généralement, les gens sont passés par l'hypnose.
Classique,
Voilà. Donc, alors, je dénigre pas du tout l'hypnose parce que je pense que ça peut aider certaines personnes. En PIX aussi, j'ai
bien connu en tabacologie.
Ouais,
oui.
J'ai des patients qui sont passés par là. Et puis, bah, l'arrêt spontané s'en substitue une personne qui passe d'une grosse dose de nicotine à zéro. Généralement, la pérennité est remise en question.
Ouais, de là, l'accompagnement, la nécessité d'un accompagnement. On va faire notre pause musicale. Vous avez choisi quoi comme morceau, Claudie Chant?
J'ai choisi une chanson qui est chère à mon cœur, qui s'appelle Sur un trapèze d'Alain Bachung.
On écoute.
On dirait qu'on se lire sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze. Et que les fenêtres nous apaisent. On dirait que l'eau soufflerait sur les braises. On dirait que les pirates nous assiègent. Et que notre amour c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord. J'ai traqué les toujours des os et les déesses. Goûté aux alentours, souvent changé d'adresse. Ceux qui nous entourent, l'extension de nos corps. Quand nous sommes à l'écart, mineurs chercheurs d'or. Quand faut-il être pour, que faut-il être encore? Quand faut-il être pour, que faut-il être encore? On dirait qu'on se lire sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. Peut-être que la nuit le monde fait la trêve. Et qu'aujourd'hui ton sourire fait grève. On dirait qu'on sait lire sur les lèvres. Et que l'on tient tous les deux sur un trapèze.
Je reçois Chloé Bichon, aujourd'hui infirmière azalée dans le cadre du mois sans tabac. Au niveau azalée, on n'a pas assez insisté en termes de mission, Chloé Bichon.
Oui.
Je sais que c'est une association, mais encore.
Ouais, c'est une association créée par des médecins. Donc aujourd'hui, on est 500 infirmières sur le territoire national. L'association a été créée en 2004, initialement dans les Deux-Sèvres. Et puis, vous voyez, en plusieurs années, les effectifs ont sérieusement gonflé. Donc nous, on travaille, donc je le rappelle, en collaboration directe avec les médecins généralistes, mais on a des protocoles qui sont bien définis. Donc on a le protocole risque cardiovasculaire, donc le protocole diabète. On fait des repérages troubles de la mémoire, le sevrage tabagique, et puis on fait quelques spirométries aussi dans le cadre des bronchopneumopathies chroniques obstructives.
J'avais une question par rapport aux infirmières en compétences avancées, les dont IPA. On parle beaucoup maintenant, je connais bien. Quelle différence entre une infirmière azalée et une infirmière en compétences avancées ?
Pour faire la différence avec l'infirmière azalée, c'est que nous, on ne prescrit pas de médicaments. On est autorisé à prescrire certains bilans sanguins, mais uniquement dans le cadre de nos protocoles qui sont bien définis. Donc, admettons, on peut renouveler une ordonnance pour un patient diabétique pour calculer son taux de glycémie. Les compétences sont quand même vraiment différentes. Et puis, nous, on est vraiment spécifiquement présentes pour faire de l'éducation thérapeutique. L'idée, c'est vraiment que la personne à bras le corps et soit autonome. Dans cet accompagnement-là.
C'est ce que je dis souvent, c'est devenir un peu acteur de son parcours de soins et l'éducation thérapeutique, c'est important. Ce que je dis souvent aussi en addictologie, c'est vraiment que le patient puisse utiliser ses ressources pour vraiment connaître sa maladie. Là, on est sur de la tabacologie aujourd'hui. On devienne maître, qu'on lui donne un peu les outils pour pouvoir avancer et s'en sortir. Et au niveau de ce mois sans tabac, on sait la difficulté pour arrêter de fumer, comme on disait au début de notre émission.
Je voulais aussi préciser que sur la Vienne, on est environ 35 maintenant. 35 D'accord. infirmières azalées. Oui. Donc,
on se dit, la personne a besoin d'outils pour arrêter de fumer. De votre côté, qu'est-ce que vous préconisez le plus ? On sait qu'on connaît les patchs, on connaît les pastilles, on connaît. Il y a aussi des médicaments que les médecins peuvent prescrire en fonction du besoin. On connaît aussi la vape. Il y a d'autres choses aussi. Donc, c'est important à un moment donné, comment on fait le tri dans tout ça ? Vous faites comment pour choisir le bon outil avec le patient ?
Alors, c'est pas moi qui choisis spécialement. J'évalue les besoins et la demande surtout du patient. J'essaye de définir avec lui la méthode qu'il souhaite employer. Généralement, moi, je travaille par le biais de substituts nicotiniques, donc patch et pastilles en association, en systématique. L'un ne va pas sans l'autre.
C'est bien de le dire. Ouais. C'est bien de le dire que l'un ne va pas sans l'autre, qu'il faut quand même le patch pour avoir la dose de nicotine. Et on sait que l'oralité est très importante au niveau du tabac.
Exactement. Pour le craving, c'est très important. Pour cette envie irrépressible de fumer, malgré le patch. Voilà, la pastille, sous la langue, et puis ça permet de faire un peu diminuer
l'envie. Irrépressible. C'est important de dire le craving aussi, qui est spécifique aux maladies addictives, c'est-à-dire, je dis souvent, ça dure 10-12 minutes, c'est vraiment l'envie irrépressible de consommer du tabac ou d'autres produits psychoactifs, et que comment faire baisser cette pression-là, cette envie, cette compulsion que la personne a de consommer sa cigarette, le rituel du matin, le rituel du café, le rituel du soir, le rituel de la fête, tous les rituels qu'on voudra, mais voilà, c'était bien de le dire.
Tout à fait. Alcool, tabac, comment se défaire de ça ? Comment se défaire de cette envie vraiment associée à des habitudes de vie aussi ? Donc on travaille aussi là-dessus parce que effectivement les patchs, les pastilles vont faire leur job sur la journée, mais un coup de fil et je fume une cigarette en même temps, comment on se défait de ça ? Donc on essaye de trouver des astuces ensemble, c'est pas moi qui prémâche le travail du patient.
Non, je pense que ça part du patient, de voir un peu son mode de vie, quand vous disiez des habitudes de consommer la cigarette, on sait très bien qu'en addicto, comment on fait pour casser les habitudes, c'est important que les auditeurs et les auditrices nous écoutent là-dessus, comment on casse ces habitudes et qu'est-ce qu'on met aussi à la place. C'est pour ça que le substitut nicotinique, on sait que la cigarette est un puissant addictif.
J'ai des patients, moi, que je suis depuis un an, qui ont toujours cette envie de fumer quotidienne et qui parlent de lutte quotidienne même. Donc, malgré les patchs, malgré les pastilles, on en est toujours là.
Je pense que je voulais aborder aussi avec vous, on se rend compte, patch et les pastilles pour le sevrage. Il y a d'autres choses dont vous utilisez ou dont on entend aussi beaucoup parler. Est-ce que vous savez si les médicaments sont beaucoup prescrits par les médecins ou non ?
Les médecins ne prescrivent pas, enfin en tout cas pas les médecins avec lesquels je travaille, les patients. Et je pense que si vraiment ils m'orientent en dernier recours, je pense qu'ils pourront prescrire des médicaments, mais généralement ça par le biais des substituts nicotiniques.
Et d'être accompagné, ça fonctionne
et
bien.
Et puis cet accompagnement, sachant que nous on n'a pas de limite en temps, on n'a pas de limite en fréquence, on peut rencontrer les personnes toutes les semaines s'il faut, donc il y a aussi cette sorte d'ultimatum et puis de coaching aussi associé, et puis une personne à qui parler.
Oui. Pour terminer, je me pose souvent aussi deux questions. La première, c'est il y a aussi la vape qui intervient aussi en tabaco. Est-ce que vous l'utilisez? On a aussi entendu parler du laser. Je pense que les patients peuvent se dire aussi, ils attendent souvent une baguette magique.
Alors effectivement, il n'y a pas de magie dans ces cas-là. J'interdis pas aux patients. Si les patients me disent qu'ils vapotent et que ça leur permet de ne plus fumer, et ben ok. En fait, ce qui est dangereux dans la cigarette, c'est entre autres, c'est la fumée, la combustion, le monoxyde de carbone prend la place de l'oxygène dans les poumons. Avec la vape, il n'y a pas cette combustion, donc il n'y a pas le monoxyde de carbone. Donc
Moi, je dis souvent que c'est une réduction des risques en addictologie. Voilà, donc, ça peut être ça. Un premier pas au niveau de la vape. Après, au niveau du comportement, c'est vrai que ça n'enlève pas la gestuelle.
Voilà,
au niveau du laser, on a pu en parler tous les deux en off.
Ouais.
Je pense qu'il faut orienter véritablement les patients, les usagers vers leur médecin traitant. Ça me paraît un impératif. À l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve scientifique par rapport au laser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Chloé Bichon.
Alors, le laser, moi, j'ai très peu de retours à ce sujet-là. Je sais que c'est un coût qui est énorme. C'est une séance. Après, le résultat, à part financier, il y a peu de risques. Après, je pense qu'il faut malgré tout demander à un professionnel, comme son médecin traitant, effectivement,
entre autres,
son pharmacien, qu'il en pense. Essayer de faire attention, effectivement, aux arnaques.
Orienter la personne vers un professionnel pour avoir un retour. Et pour terminer, on sait très bien qu'il y a une prise de poids quand il y a un sevrage tabac. Que faire avec
nous, les infirmières azalées? On est aussi, là pour prendre en charge le risque de la prise de poids. Donc, on donne des conseils nutritionnels, on n'est en aucun cas diététicienne, mais on est habilité à prendre en charge éventuellement
les personnes.
Faut
en tenir compte, on sait que c'est un peu le risque avec l'appel du sucre se fait souvent derrière des sevrages, la plupart du temps.
Tout à fait, il y a une compensation par le biais de la nourriture. Donc on est là aussi pour accompagner, et ça fait partie de la prise en charge globale
du
sevrage tabac de toute façon.
C'est un accompagnement global. Ouais. Merci Chloé Bichon.
Merci à vous de m'avoir reçu.
À la semaine prochaine. L'instant addicto.